Bonjour mes frères et mes sœurs. Alors, vous avez constaté que notre frère Emmanuel, c'est un gourmand. Et j'espère ne pas seulement apporter juste du fruit à pain, mais aussi des garnitures et peut-être un dessert, n'est-ce pas? Et je salue tous ceux qui nous suivent sur Zoom. Est-ce que vous savez que la Bible dit « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau ». Alors, je voudrais, c'est juste un encouragement, frères et sœurs. Tout à l'heure, notre sœur Jacqueline, elle a entonné un chant nouveau à la fin de ce chant normal, entre guillemets. Et il y a très peu qui ont réagi. Frères et sœurs, nous devons entrer dans une nouvelle dimension dans la louange et dans l'adoration. Et quand un dirigeant entame un chant nouveau, crée une mélodie nouvelle, utilisant de nouvelles paroles, je vous encourage à rejoindre le dirigeant et à chanter avec elle ou avec lui un chant nouveau. Entrant dans une nouvelle dimension. Merci pour votre enthousiasme. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de cette fermière qui allait tous les dimanches fidèlement au culte. Et quand elle rentrait, donc alors son mari, qui n'était pas converti, et ses fils lui ont demandé « Alors, sur quoi le pasteur a-t-il prêché ?» Et elle disait « Je ne me souviens plus. » Il dit « Mais à quoi bon aller à l'église si tu oublies si vite ce que le pasteur a dit ?» Elle a dit « Mais moi, je suis comme un panier sale qu'on trempe dans l'eau. Quand tu retires le panier, l'eau donc s'en va, il n'y a plus rien qui ne reste, mais le panier est à nouveau propre. » Et ce matin, frères et sœurs, nous voulons nous plonger dans la parole de Dieu. Et nous voulons le laisser purifier, épurer par les Saintes Écritures. Est-ce que vous êtes prêts? Vous savez, je suis en pleine lecture de l'Apocalypse. Donc, je lis la Bible toujours par livre. Je vous encourage à faire de même. Et évidemment, quand vous dites Apocalypse, vous dites chapitre 2, chapitre 3. C'est-à-dire, vous parlez des sept églises où le Seigneur, il se révèle à chacune de ces différentes assemblées. Et il fait des éloges pour les bonnes choses et il fait la critique pour les mauvaises choses. Et frères et sœurs, pour être franc, donc je me suis posé la question, qu'est-ce que le Seigneur dirait à l'église de Dumaine? Qu'est-ce que le Seigneur dirait concernant nous ce matin? Est-ce qu'il y a de bonnes choses à louer, à recommander? Est-ce qu'il y a des choses à critiquer, à reprendre? Alors nous pouvons poser la question sur un plan général, collectif, mais nous devons aussi nous poser cette question sur un plan individuel. Merci. Et je passe de l'Apocalypse à la Genèse. Ce matin, nous allons voir ensemble une bénédiction prophétique ou des bénédictions prophétiques de Jacob, le père de 12 fils. Et je vous invite tout de suite à prendre le chapitre 49, l'avant-dernier chapitre du premier livre de notre Bible. Et nous allons lire ensemble quatre versets, juste quatre versets. Et je prie que ce soit plus que du fruit à pain. Pour utiliser une expression de notre bien-aimé frère Emmanuel. Genèse chapitre 49, l'avant-dernier chapitre, verset 1er, verset 4. Et nous allons faire ensemble la lecture. Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce que vous arrivera à la suite des temps. » Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez, Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant, et nous disons Amen. Et vous devez laisser votre Bible ouverte parce que nous allons revenir à ces quatre versets. Frères et sœurs, je voudrais vous amener avec moi au siècle dernier, et pour être plus précis, il s'agit du mois d'avril 1963. Donc exactement 61 ans, imaginez. J'ai été fiancé à l'époque et avec ma fiancée Annick, que plusieurs d'entre vous ont encore connue, nous avons assisté à un cours biblique aux Pays-Bas. Un cours de 15 jours qui était organisé par le mouvement missionnaire qui par la suite nous a envoyé ici aux Antilles. Le soir, c'était le fondateur qui prêchait, c'est un excellent prédicateur, et pendant la journée, c'était son épouse Elisabeth qui enseignait. Alors le sujet de ce cours, c'était tout d'abord Hébreux 6, c'est-à-dire le fondement, et puis 1 Corinthiens chapitre 12, les dons spirituels. J'étais encore jeune converti, j'ai appris un tas de choses pendant ces 15 jours, et à la fin de ce cours, Elisabeth avait à cœur de prier pour chaque participant de ce cours et de prononcer une bénédiction sur ses participants. Elle se laissait inspirer et elle donnait aux différents étudiants une parole prophétique. Et puisque nous étions fiancés, donc elle nous a appelés ensemble et donc elle a procédé de cette façon une prière, une bénédiction et puis elle avait une parole. Et c'était une parole qui disait, entre autres, en grand résumé, que le Seigneur nous enverrait vers des plages lointaines, non pas pour nous faire bronzer, mais pour annoncer l'Évangile. Et la parole disait que nous transpercerions les ténèbres par notre ministère. Et je crois que cette parole, elle s'est pleinement réalisée. Mais je partage cela pour vous donner un exemple de ce qu'est une bénédiction prophétique. Il y a des années, je me suis retrouvé au centre de Fort-de-France et j'ai surpris la conversation d'une dame d'un certain âge. Elle a pris congé d'un jeune homme et je me suis dit, c'est certainement une grand-mère qui se sépare de son petit-fils et lui a dit que Dieu te garde. Vous savez, j'étais touché par ces quatre mots, juste quatre mots, que Dieu te garde. Et je suis persuadé que ce n'était pas juste du blabla, ce n'était pas juste une formalité, c'était quelque chose qu'elle voulait vraiment dire. C'était un vœu inspiré, que Dieu te garde. Alors frères et sœurs, ce matin je voudrais donc parler de la bénédiction prophétique. Donc bénédiction prophétique, ça c'est mon thème, avec toutes ses retombées. Et nous allons parler de trois points. Nous allons tout d'abord parler de la bénédiction et de ses effets. Nous allons parler dans un deuxième temps du cas Ruben, qui évidemment donc occupe la part du lion, si vous voulez, de notre message. Et finalement, nous voulons jeter un coup d'œil sur les premiers-nés et sur les prémices. Voilà donc le menu. Maintenant, vous n'avez pas le droit de choisir parce que vous êtes obligé de prendre toutes les trois, n'est-ce pas? Alors, parlons tout d'abord de la bénédiction et de ses effets. Lorsque vous lisez la Bible, mes frères et mes sœurs, vous ne pouvez pas, donc, ne pas reconnaître qu'il est continuellement question de bénédiction. Et je dois vous dire que les gens de l'Antiquité croyaient à la puissance des bénédictions et des malédictions. Vous ne pouvez pas échapper à cela quand vous parcourez les Saintes Écritures. Et alors, vous savez que les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, ils bénissaient leur progéniture. Et puis, vous avez ce que nous appelons la bénédiction patriarcale. C'est-à-dire, il y a une bénédiction spéciale qui incluait la fertilité pour les champs, pour le bétail, pour l'homme, et donc attaché à cette bénédiction, il y avait toujours la pensée de la terre promise. Alors, donc, et par la suite, vous savez, nous avons eu l'institution du sacerdoce lévitique, il y avait maintenant les sacrificateurs, et les sacrificateurs avaient entre autres le message, la tâche de bénir le peuple d'Israël. Frères et sœurs, ce n'était pas juste quelque chose de mécanique. il devait prononcer une parole de bénédiction. Et bien sûr, vous connaissez certainement tous ce que nous appelons la bénédiction sacerdotale, la bénédiction aaronique, et je voudrais donc vous le montrer. Donc ensemble, nous allons lire, vous pouvez le lire sur l'écran si vous voulez, ou dans votre Bible, excusez-moi. Alors, nous avons Nombre, chapitre 6, à partir du verset 22, où nous lisons « L'Éternel parla à Moïse et dit, parla à Aaron et à ses fils, et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. » Et maintenant, il y a une phrase significative qu'on a tendance de supprimer, mais elle est importante, verset 27. « C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. » Frères et sœurs, il y a des théologiens qui pensent que nous avons ici implicitement une allusion à la Trinité. Autrement dit, que toute la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit déversent les bénédictions sur le peuple de Dieu. Dans un instant, je vais vous dire, vous donner une définition de ce que nous devons comprendre par bénir, n'est-ce pas? Mais de toute façon, il incombait donc aux sacrificateurs de l'ancienne alliance de bénir le peuple de Dieu. Frères et sœurs, ce désir ou cette dâche n'a pas pris fin parce qu'il y a maintenant une nouvelle race sacerdotale. C'est nous. La Bible nous dit que nous sommes un peuple de sacrificateurs, un royaume de sacrificateurs. Et vous savez, les réformateurs du XVIe siècle ont redécouvert ce que nous pouvons appeler donc le sacerdoce universel de tous les croyants. Frères et sœurs, si vous êtes nés de nouveau, vous êtes automatiquement aussi un sacrificateur. Vous êtes un prêtre et ainsi donc, il est important que vous puissiez aussi comprendre que vous pouvez bénir les autres personnes. Jean et Pierre en parlent tous les deux. Donc, je n'ai pas le temps maintenant de dénumérer tous les versets, mais de toute façon, il est clair. Et l'apôtre Pierre, il dit ceci par rapport à la bénédiction. « Ne rendez point mal. » Excusez-moi, donc j'aurais dû montrer le reste aussi. « Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. » Donc, nous sommes appelés à bénir. Et la fin de ce verset dit « afin d'hériter la bénédiction ». Autrement dit, si tu veux être un héritier de la bénédiction du Seigneur, tu es appelé à bénir à ton tour. Et puis, évidemment, cela correspond à ce que nous apprenons dans le sermon sur la montagne, parce que Jésus l'a dit « bénissez ceux qui vous maudissent ». Mais à présent, je voudrais vous donner donc une définition de ce que nous devons comprendre par bénir. Alors voilà donc ce que quelqu'un a proposé. Bénir est la projection du bien dans la vie de quelqu'un d'autre. Il ne s'agit pas juste de paroles. Alors je voudrais vous dire que d'habitude une bénédiction est véhiculée par des paroles. Nous les prononçons, mais il ne s'agit pas juste de paroles. C'est une véritable démonstration de votre volonté pour le bien d'une autre personne. Cela implique toujours Dieu. Lisez bien là avec moi. Parce que quand tu désires le bien d'une autre personne, tu reconnais que seul Dieu est capable d'accorder cela. C'est pourquoi nous disons que Dieu te bénisse. Alors, je voudrais vous dire que nous pouvons bénir, donc, en exprimant le désir, le vœu que nous avons pour quelqu'un d'autre. Mais il y a encore une autre façon d'exprimer la signification de la bénédiction. Je vous fais quelques propositions. C'est rendre quelqu'un participant des grâces et des bienfaits de Dieu. C'est placer quelqu'un sous la faveur et le regard bienveillant de l'Éternel. C'est combler quelqu'un de bien. C'est faire prospérer quelqu'un ou quelque chose par la faveur de l'Éternel. Et donc, je reviens encore une fois sur ce verset 27 de Nombre 6, c'est-à-dire, nous mettons le nom du Seigneur sur la personne et le Seigneur la bénira. Alors, je voudrais vous dire ce matin, frères et sœurs, vous pouvez par exemple bénir vos enfants, ceux qui en ont encore en bas âge, quand ils vont à l'école. Vous pouvez les bénir lorsque vous les bordez le soir. Vous pouvez bénir votre conjoint. Vous pouvez bénir votre patron, votre entreprise, afin qu'il y ait toujours du travail ou qu'il y ait de l'harmonie entre patron et employé et ainsi de suite. C'est-à-dire, il n'y a pas de limite. Nous pouvons bénir l'autre personne. Étant des sacrificateurs, nous nous bénissons mutuellement. Par exemple, il est intéressant de constater que David, après avoir ramené l'Arche de l'Alliance à Jérusalem, eh bien donc, il s'en retourna pour bénir sa maison. C'est un geste significatif. Visiblement, David avait compris la portée, la signification de la bénédiction. Donc, ce n'était pas juste du blabla, quelques paroles. C'était quelque chose de réel qui portait du fruit. Et encore, nous comprenons peut-être maintenant un peu mieux le fait que Jacob, quand il a été, pour ainsi dire, attaqué, agressé par un inconnu, vous savez, quand il était en route pour rentrer à Canaan, eh bien donc, à la fin, il formule une requête. Il s'adresse à cet étranger qu'il a assailli, l'ange de l'Éternel, sans aucun doute. Il dit, « Je ne te laisserai point que tu ne m'aies béni. » Autrement dit, Jacob a compris la signification de la bénédiction et il ne voulait pas quitter ces lieux sans avoir reçu la bénédiction de cette personne qu'il avait assaillie. À présent, nous voulons examiner un peu notre texte, n'est-ce pas? Et nous trouvons donc dans notre chapitre cette bénédiction prophétique de Jacob. Alors il y a quelqu'un qui a dit, il vaut peut-être mieux parler d'un testament prophétique, parce qu'il est vrai, quand vous parcourez ce chapitre 49, vous allez vous apercevoir qu'il n'y a pas seulement de bénédiction, il y a aussi de malédiction. Par exemple, le verset 7, vous pouvez jeter un coup d'œil dans votre texte, donc là, Jacob n'est pas tendre pour deux de ses fils, mais même en ce qui concerne Ruben, ce qu'il dit dans la deuxième partie, le verset 4, eh bien ce n'est pas une bénédiction, c'est plutôt une malédiction. Alors quand nous parlons de prophétisme, frères et sœurs, nous devons reconnaître qu'il y en a au moins trois formes de prophétisme. Donc ce n'est pas ça. Voilà, je les ai sur l'écran, vous pouvez jeter un coup d'œil là-dessus. Alors il y a tout d'abord bien sûr le ministère du prophète. Et nous avons des prophètes dans l'Ancien Testament, nous avons des prophètes qui ont parlé, et il y a des prophètes qui ont aussi écrit, comme Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, etc. Mais nous avons aussi les prophètes dans le Nouveau Testament. Je sais que c'est un sujet de débat parmi les évangéliques. Est-ce qu'il y a toujours des prophètes, oui ou non? J'y crois, mais ils n'ont pas la taille, la mesure des prophètes de l'Ancien Testament. Ensuite, nous avons le don de prophétie que nous aimerions voir fonctionner aussi dans notre assemblée, n'est-ce pas? Le « Ainsi parle le Seigneur », les pensées inspirées de la part du Seigneur. Et donc, c'est 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14 qui nous en parlent surtout. Et puis finalement, nous avons l'esprit de prophétie. C'est-à-dire, par exemple, Hénoch, il a prophétisé, la Bible nous le dit, n'est-ce pas? Il a prophétisé probablement à une reprise. Autrement dit, l'esprit de prophétie, ça c'est plutôt quelque chose d'exceptionnel pour une personne qui d'habitude ne prophétise pas. Mais maintenant, plongez vos regards une nouvelle fois au verset 2, où nous lisons ceci. Regardez comment Jacob réunit ses fils, ce qu'il leur dit. « Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. » Écoutez Israël, votre père. Alors, pour ceux qui veulent avoir la bonne formulation, nous avons ici ce qu'on appelle un parallélisme synonymique. Autrement dit, nous avons ici de la poésie, mais les deux noms que vous rencontrez ici ne représentent pas deux personnes, c'est une et la même personne, parce que donc dans la poésie hébraïque, la deuxième ligne est en quelque sorte l'écho de la première ligne. Alors ici, vous avez Jacob et vous avez Israël. J'aimerais m'attarder un peu là-dessus, surtout après la réflexion de Jacqueline, notre plus grand ennemi, nous-mêmes, notre vieil homme. Eh bien, parlons un peu de Jacob. Vous savez que Jacob, c'est donc celui qui supplante, celui qui s'empare du talon, n'est-ce pas ? Celui qui triche, qui trompe, qui n'a pas hésité à badiner son propre père, à lui mentir froidement, pour donc recevoir la bénédiction du premier-né. Alors, ça c'est Jacob. Et puis nous avons Israël. Jacob doit devenir Israël. Et dans Israël, vous avez le mot de Dieu. Autrement dit, maintenant Jacob est porteur du mot, du nom de Dieu, dans son nouveau nom. Et Dieu ne voulait pas seulement changer son nom, il ne voulait pas seulement changer son statut, sa position, il voulait changer l'homme, il voulait changer son caractère, son être. Et frères et sœurs, c'est exactement le programme que Dieu a en vue pour chacun d'entre nous. Parce que, donc, si vraiment le vieil homme est notre plus grand ennemi, il faut que nous nous en occupions, n'est-ce pas ? Alors, nous avons besoin de passer par le même chemin que Jacob. Vous savez que Jacob a vécu des transformations. Maintenant, je le vois à la fin de sa vie, et c'est un homme qui peut parler de la part du Seigneur, sous inspiration. Son caractère a changé, Dieu s'en est occupé. Eh bien, il veut faire la même chose avec nous. Il veut nous libérer de notre vieille nature. Et évidemment, donc, le moyen par excellence, c'est la croix. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que c'est notre témoignage ? Ensuite, opérer de profonds changements en nous. Transformer notre caractère. Nous faire porter, donc manifester le fruit de l'Esprit. Et finalement, il veut nous débarrasser de tout ce qu'il y a encore de Jacob en nous. Et vous savez mieux probablement ce qu'il y a encore en vous, ce qui ne plaît pas au Seigneur et ce dont vous avez besoin d'être débarrassé. Alors, maintenant, nous allons donc passer à notre deuxième point, c'est-à-dire nous allons nous occuper maintenant du cas Ruben. Voilà, est-ce que vous voulez tourner vos projecteurs vers les versets 3 et 4? Nous allons relire ces deux versets. C'est maintenant la première personne à laquelle Jacob se tourne, n'est-ce pas? Il commence avec son aîné. « Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétué comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. » Alors, comme vous pouvez donc constater, Jacob débute avec son premier-né, et donc le premier-né bénéficiait de trois avantages, trois privilèges. Tout d'abord, il avait droit à une double portion de l'héritage. Pensez à Élie et Élisée. Quand les deux hommes se séparent, Élie dit « Demande ce que tu voudrais ». Et Élisée dit « Une double portion de ton esprit ». À vrai dire, il a demandé le cadeau, la part du premier-né, la double portion. Dans un deuxième temps, il y a la bénédiction patriarcale. Autrement dit, donc, c'est une bénédiction spéciale. Et troisièmement, c'est lui qui deviendrait donc par la suite le patron, le chef du clan, c'est-à-dire la personne la plus importante. Donc, quand vous regardez, quand vous analysez le verset 3, vous constatez qu'il y a éloge. Et donc, Jacob, il chante les avantages de son premier-né, d'Ésaü. Et nous savons que un premier-né d'habitude est source de joie, source de fierté, n'est-ce pas? Et donc, on dirait que au départ, c'était bien ça aussi pour Jacob, dans la personne de Ruben. Mais alors, donc, sa joie est vite ternie parce que nous constatons qu'il y a eu un événement qui a changé tout le décor. Et nous allons en parler dans un instant. Mais maintenant, comparez donc le verset 3, élogieux, avec le verset 4, et vous allez constater qu'il y a un décalage. Le décalage, c'est que entre position hiérarchique, premier-né, donc candidat à la double portion, et ainsi de suite, et puis vous avez la question du caractère, et il y a un décalage entre les deux. Et frères et sœurs, malheureusement, ça peut nous arriver aussi. Et donc, entre notre vocation d'enfant de Dieu, de fils de Dieu, et notre comportement, il y a souvent aussi encore un décalage. Et regardez le tableau que Jacob, il brosse. Il parle au verset 4, « impétueux comme les eaux ». Alors, vous connaissez un peu les caractéristiques de l'eau, n'est-ce pas? Vous savez que l'eau, ça parle d'instabilité. C'est un manque de stabilité. C'est un manque de fermeté. Et puis, vous savez que l'eau peut être violente. Elle peut être destructrice. Autrement dit, donc, vous avez ici un tableau d'un homme qui manque de fermeté, qui manque de maîtrise de soi, qui manque de stabilité. Et frères et sœurs, cela nous concerne également. Alors, Jacob, il fait allusion ici aux passions non maîtrisées, non contrôlées de Ruben, à son instabilité, son manque de fermeté, de résolution, d'équilibre, de maîtrise de soi. Mais frères et sœurs, on ne va pas s'arrêter près de Ruben, parce que cela nous concerne également. Et chaque pasteur, il voudrait avoir une congrégation qui consiste d'hommes et de femmes qui justement présentent un équilibre spirituel, émotionnel, moral. Des hommes et des femmes mûrs, matures, stables, enracinés. Et frères et sœurs, c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, il a donné un conseil aux Colossiens quand il dit, et vous lisez vous-même, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi. » Regardez les racines là. Nous avons besoin de racines, n'est-ce pas? Nous avons besoin de devenir stables. Et Paul dit aux Éphésiens, quand il décrit l'homme tel que le Seigneur voudrait l'avoir, c'est quelqu'un qui n'est pas emporté à tout vent de doctrine. C'est quelqu'un qui est stable. Et frères et sœurs, c'est de tels chrétiens dont l'Église a besoin, que le Seigneur recherche. Et je voudrais vous lancer un défi à devenir ce genre de chrétien, ce genre d'homme et de femme. Alors, à quel événement Jacob fait-il allusion dans son discours? Vous le savez probablement, vous connaissez la Bible, n'est-ce pas? Alors, mais nous allons quand même lire le verset, chapitre 35 et le verset 22, où nous lisons ceci: « Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père, et Israël l'a pris. » Nous allons revenir à cette dernière petite phrase. Mais tout d'abord, donc, le péché de Ruben, c'est quoi? C'est l'inceste. Parce qu'il couche avec la femme, donc avec la concubine de son père. Et vous savez que plus tard, Moïse dira ceci: « Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. » C'est la nudité de ton père. Et les érudits sont d'avis que c'est un euphémisme pour avoir des relations sexuelles avec la femme de ton père. Au fond, c'est le péché que vous rencontrez en 1 Corinthiens chapitre 5, n'est-ce pas? Donc, ici, vous avez un péché d'ordre sexuel, et nous allons y revenir dans un instant, mais je voudrais tout d'abord donc dire quelque chose par rapport à cette petite phrase « Et Israël l'a pris ». Vous savez, pour nous, ce sont quatre mots. En hébreu, ce sont juste deux mots. Et par là, nous sommes rappelés que rien ne restera caché. Vous avez ici une petite leçon en allemand. Es ist kein Wäldlein so weit gesponnen, es kommt doch an das Licht der Sonnen, qui veut dire, il n'y a pas de fil aussi finement qu'il soit tissé, qui ne parvienne à la lumière du soleil. Tôt ou tard, tout se saura. Et ça, c'est que Moïse a dû donc dire au peuple d'Israël, sachez que votre péché vous atteindra. Tôt ou tard, donc, il y aura des répercussions. Et frères et sœurs, je voudrais juste vous montrer, brièvement, les conséquences d'un péché. Alors, nous pouvons vraiment apprendre, donc, des leçons précieuses de la chute de Ruben. Alors, tout d'abord, nous sommes rappelés ici la puissance du sexe et des pulsions sexuelles. Et quand je parle du sexe, vous n'avez pas besoin de mettre votre visage, expression de visage la plus sainte, parce que la Bible parle du sexe. Il y a tout un livre qui parle du sexe. C'est le Cantique des Cantiques, n'est-ce pas? Je voudrais que vous ne sous-estimiez pas la puissance du sexe. J'ai dit cela déjà à d'autres occasions. Est-ce que vous savez que sur les 27 livres du Nouveau Testament, 19 parlent des péchés sexuels? 2/3 du Nouveau Testament évoquent cela. Donc, c'est quelque chose dont nous devons tenir compte. Et quand Paul s'adresse aux Colossiens, chapitre 3, et quand il dit « Nous devons faire mourir les membres qui sont sur la terre » ou une autre version « Ce qui est terrestre », la première chose qu'il mentionne, ce sont les péchés sexuels. Il utilise 5 expressions, 5 formes, juste pour vous dire, c'est un problème dans la première église, c'en est toujours un aujourd'hui. Alors, vous savez, nous avons besoin de la grâce du Seigneur pour marcher dans la lumière. Amen. Deuxièmement, nous avons ici le fait que Dieu, il nous pardonne notre péché quand nous lui demandons pardon. N'est-ce pas? Ce matin, donc, il y a plusieurs qui ont exprimé cela à l'occasion de la Sainte Cène. Nous savons que le sang de Jésus, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché. Mais nous devons faire une distinction, frères et sœurs, entre le pardon d'une part et les conséquences du péché d'autre part. Et là, nous n'échappons pas aux conséquences. Et je voudrais juste vous rappeler David et Bathsheba, n'est-ce pas? Vous rappelez-vous? Donc, David qui se repent, psaume 51, c'est un psaume émouvant. Mais je voudrais vous rappeler aussi qu'il y a eu les conséquences et le règne de David n'est plus jamais été le même après sa chute. Troisièmement, le passé peut nous rattraper. Et surtout quand il s'agit d'un passé non confessé. C'est la raison pour laquelle nous avons de l'intérêt à confesser nos péchés, afin que nous soyons en règle avec notre Dieu. Et quatrièmement, un moment de folie, de passion, de plaisir illicite peut nous coûter extrêmement cher. Laissez descendre cette pensée dans votre cœur et dans votre esprit, et donc nous aurons peut-être le temps de regretter ici-bas, et pour certains peut-être de regretter éternellement. Eh bien, qu'il n'en soit pas ainsi, c'est pourquoi réglons les choses. Ensuite, j'ai encore ici, nous connaissons tous des tentations, n'est-ce pas? Il n'y en a pas un seul ici qui ne soit pas tenté. Et je crois que pour certains, la tentation sexuelle est la plus forte, la plus grande, et nous ne devons pas nous voiler la face. Moi, je prie régulièrement cet extrait d'une autre Père qui dit « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, parce que nous tous, nous sommes des candidats pour la chute. » Il y a quelques-uns qui sont d'accord avec moi. Hein, donc, mais c'est comme ça. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Pierre, il nous lance un défi. Il nous appelle à la sobriété, il nous appelle à la vigilance. Et quand il dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Voilà. J'aimerais vous confronter avec ce que dit Dr. Neil Anderson. Ça, c'est l'auteur du livre Le Libérateur. Quelques-uns ont peut-être lu son ouvrage, et c'est devenu un ouvrage très connu. Et il dit quelque chose de pertinent quand il dit que si nous voulons contrôler notre vie sexuelle, nous devons contrôler notre vie de pensée. Parce que tout commence là. Et finalement, donc, prenons la ferme résolution. Avec la grâce du Seigneur, nous resterons debout. Nous ne voulons pas chuter. J'espère que ce n'est pas votre désir déjà de chuter. Et donc, deuxièmement, que vous ayez le désir de grandir et de rester debout à l'heure de la tentation. Alors, nous avons de l'intérêt juste à jeter un coup d'œil sur ce que Jacob dit par rapport au péché de son fils, quand il dit « Tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. » Vous savez, cela me rappelle l'exhortation de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, quand il dit que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal sans souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Alors, je crois que Jacob, il respectait le caractère sacré du mariage. Et nous aussi, nous avons de l'intérêt à le faire, n'est-ce pas? Mais il est temps que nous examinions le verdict de Jacob par rapport à son fils, n'est-ce pas? Donc, parce qu'il dit, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Autrement dit, donc, il est privé de ses droits, de ses avantages, de ses privilèges d'un premier-né. Et vous avez ici encore un autre verset qui confirme cela, dans la généalogie, n'est-ce pas, dans 1 Chronique, vous avez ici ce fameux verset, fils de Ruben, premier-né d'Israël, tant qu'en principe, candidat à la double portion, à la bénédiction du premier-né. Mais qu'est-ce que vous lisez? Car il était le premier-né, mais parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Autrement dit, par son péché, Ruben était le grand perdant. Et nous devons donc retenir cette leçon, frères et sœurs. Par nos péchés, nous pouvons être des perdants. Mais avant d'être trop sévère dans notre jugement avec Ruben, je voudrais vous parler de ses côtés positifs. Juste 3 points. Tout d'abord, quand les frères de Joseph ont voulu le tuer, Ruben les a empêchés. Point positif, n'est-ce pas? Quand les frères ont vendu Joseph, Ruben n'était pas là. Et quand il l'apprend, il déchire ses vêtements. Il est dans la consternation, ce qui montre qu'il n'était pas du tout d'accord. Deuxième point positif. Le troisième point positif, c'est lorsque Joseph demandait la présence de Benjamin et Jacob ne voulait pas le laisser partir. C'est Ruben qui est intervenu. Il a dit, mais papa, tu peux tuer mes deux fils. Évidemment, donc c'est la folie, mais je veux dire, il était prêt à sacrifier ses deux fils pour permettre que Benjamin descende en Égypte. Et il a aussi dit, je te le ramènerai. Troisième point positif. Ce qui veut dire que nous devons donc suivre le conseil du Seigneur Jésus quand il dit « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Amen. Alors, nous avons un dernier point en guise de conclusion. Vous pouvez respirer déjà plus facilement maintenant. Et ça, c'est un regard sur les premiers-nés. Alors, je voudrais vous confronter avec une déclaration de Jacques, le demi-frère du Seigneur Jésus. Il dit dans sa lettre, chapitre 1er, « Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. » Alors, nous avons un premier-né qui a échoué, Ruben. Maintenant, le Seigneur nous rappelle, nous sommes aussi des premiers-nés. Si nous sommes nés de nouveau, nous faisons partie des prémices de sa création. C'est donc un privilège, frères et sœurs. Et je voudrais juste vous rappeler que dans la Bible, je rencontre plusieurs premiers-nés qui ont échoué. Et nous ne voulons pas imiter leur exemple. Eh bien, vous voulez les connaître. Vous avez ici Caïn, premier-né, d'Adam et d'Ève, assassin. Premier assassin de l'humanité. Vous avez ensuite Ésaü, qui est appelé un homme profane. Puis vous avez Amnon, premier-né de David. Lui, il devient un violeur. Il viole sa demi-sœur. C'est un incestueux. Et puis vous avez encore Samson, premier-né, donc d'ailleurs aussi le fils unique de ses parents. Lui aussi, il a échoué, il a perdu même sa vue à cause de ses passions. Alors ça, ce sont des mauvais exemples. Mais nous voulons être des premiers-nés qui marchent dans les empreintes du Seigneur. Et je voudrais vous présenter, frères et sœurs, le premier-né par excellence, en l'occurrence notre Seigneur Jésus-Christ. Et regardez ce que la Bible nous dit là, ce sont les paroles de Paul, comme vous les reconnaissez, « Car ceux qu'il, c'est-à-dire Dieu le Père, a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. » Et Jésus, il est aussi le premier-né d'entre les morts. Il est le premier-né de toute la création. Et c'est à ce premier-né que je veux ressembler. C'est à ce premier-né que nous tous nous sommes appelés à ressembler. Est-ce que vous voulez le faire? Est-ce que vous voulez vous efforcer à plaire et à devenir comme le premier-né Jésus-Christ? Alors, vous savez, il y a une place pour ces premiers-nés. Cette place se trouve sur la montagne de Sion, la Sion spirituelle, bien sûr. Et donc, je voudrais que vous preniez pour terminer notre message ce matin, Révélation, qu'est-ce que je dis Révélation, ça c'est anglais, Apocalypse, chapitre 14, et là, vous trouvez donc 144 000 en présence de l'agneau sur la montagne de Sion. Et j'aimerais lire avec vous juste les versets 4 et 5. Et j'aimerais que vous ayez le désir de leur ressembler, que vous puissiez effectivement être un premier-né à l'instar de Jésus et à devenir un premier-né qui un jour se trouvera en compagnie de l'agneau sur la montagne de Sion parmi ses 144 000. Et rassurez-vous, c'est un chiffre symbolique, donc il n'y a pas 144 000 et pas un de plus ou un de moins, c'est un chiffre symbolique. Est-ce que vous avez trouvé Apocalypse chapitre 14? Et je lis avec vous les versets 4 et 5, la description de ces premiers-nés que nous devrions devenir. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ça, c'est spirituel, rassurez-vous. Si vous êtes marié, vous pouvez toujours faire partie des 144 000, parce que les vierges ici, ça, c'est le statut spirituel. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme quoi? Des prémices ou des premiers-nés pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge car ils sont irréprochables. Frères et sœurs, vous avez ici un portrait à l'opposé de celui de Ruben. Et je veux leur ressembler. Est-ce que vous avez le même désir? Devenir comme ces 144 000. Je voudrais terminer avec une pensée de l'apôtre Paul. La raison pour laquelle nous trouvons l'histoire de la bénédiction prophétique de Jacob et l'histoire de notre ami Ruben, c'est parce que Paul a dit que tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Et un aspect de cette espérance, c'est de nous trouver un jour avec Jésus comme des vainqueurs, comme des premiers-nés victorieux sur la montagne de Sion avec l'agneau Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, frères et sœurs, on peut chanter une bénédiction. Et Je ne sais pas si vous connaissez encore, si on chante ça encore ici. Je ne l'ai jamais entendu ici, il me semble. On chantait ça souvent lors d'un enterrement, mais aujourd'hui, ce n'est pas un enterrement, c'est une fête. Donc, Jacqueline nous a fait bien comprendre que c'est un jour de joie, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous connaissez encore ce chant? Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? On va se lever et tout à l'heure, je voudrais faire quelque chose. Je n'ai pas demandé la permission au pasteur, mais je sens que j'ai déjà son approbation. Alors, on va chanter la paix de Dieu. Que la paix de Dieu soit avec nous. On peut aussi chanter avec... Tu peux chanter avec toi et tu te tournes vers ton prochain, ton voisin. C'est Henri. La paix de Dieu. La paix de Dieu, la paix de Dieu, que la paix de Dieu soit avec nous. La paix de Dieu, la paix de Dieu, que la avec nous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je m'en bénis au nom de Jésus. Quelqu'un, que la paix de Dieu soit avec toi. Ok? Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit soit avec moi. La paix de Dieu, te remercier de ce que nous pouvons nous bénir les uns les autres. Je te remercie de ce que la bénédiction est une réalité et que nous pouvons ainsi rendre notre prochain participant de tes faveurs, de tes grâces, de tes bienfaits, de façon volontaire et vraiment, Seigneur, de tout notre cœur. Seigneur, nous voulons aussi apprendre par l'échec de Ruben. Nous voulons nous laisser interpeller par son péché parce que nous voulons marcher dans tes voies. Et Seigneur, nous voulons être ces premiers-nés qui un jour pourront se trouver en ta compagnie sur la montagne de Sion. Alors, tu nous aides à marcher jour après jour dans tes empreintes, dans tes pas. Seigneur, nous voulons te remercier de ce que tu nous équipes de la force afin que nous puissions résister à toute forme de tentation, être vigilants, rester sobres et remporter la victoire sur le vieil homme. Oui, nous voulons délibérément livrer à la croix notre vie ancienne avec ses passions et ses désirs, et nous voulons marcher en nouveauté de vie comme ta parole nous l'exhorte à le faire. Sois béni, Père. Aussi donc que pendant cette nouvelle semaine qui s'ouvre devant nous, que ce soit une semaine victorieuse pour chacun d'entre nous, et là où nous avons échoué jusqu'à présent, là où il y avait faiblesse, faille, échec, je te prie, Seigneur, que pendant cette nouvelle semaine, nous puissions faire des progrès et remporter des victoires significatives au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, ce que je voudrais faire maintenant, mes frères et mes sœurs, c'est que toujours deux personnes se bénissent mutuellement. Toujours homme avec homme, femme avec femme, allez vers quelqu'un et bénissez-vous mutuellement, de façon délibérée, pas juste que Dieu te bénisse, mais laissez-vous inspirer. Est-ce qu'on peut faire ça? Ça sort un peu de l'ordinaire et nous voulons sortir de l'ordinaire. Alors, allez vers quelqu'un, les sœurs vers une sœur, les frères vers un frère, et laissez-vous inspirer et bénissez la personne au nom de Jésus.